Chers auditeurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de notre guide sur la couverture médiatique des violences basées sur le genre. Dans la première partie, nous avons essayé de comprendre les notions de base. Ce que c'est la violence basée sur le genre, quel type de violence il y a, la différence entre le genre et le sexe, et les stéréotypes véhiculés par les cultures et répercutés par certains médias. Voyons maintenant comment faire une couverture médiatique des VBG avec professionnalisme, humanité et respect. Couvrant ces VBG, il faut éviter de décrire les femmes sur base de leurs aspects physiques, leur état civil ou familial, à moins que ces informations soient essentielles à l'article en question. Demandez-vous si vous donneriez des informations similaires s'il s'agissait d'un homme. Il est important de connaître le public cible de votre article ou reportage et de veiller à l'équilibre de genre dans le choix des experts ou témoins. Utilisez toujours le titre, le nom, l'appellatif d'une femme en question plutôt que dire la femme de M. Georges. Si vous faites un reportage sur Hillary Clinton, qui a été décorée par le comité Nobel, et vous vous référez à elle comme Madame Clinton, vous aurez sciemment limité ou minimisé son importance au profit de son mari, qui ne fait rien dans son reportage. Évitez d'utiliser des descriptifs qui cèdent aux attentes de la société vis-à-vis des femmes et qui sont intrinsèquement restrictifs, une mère de 6 enfants, par exemple, ou qui dévalorise ou rabaisse ou exploite l'image des femmes. Évitez d'assigner des rôles qui renforcent les préjugés. L'utilisation d'un terme comme « femme médecin » est intrinsèquement sexiste car il suggère qu'il n'est pas normal pour une femme d'être médecin. Présentez les personnes des deux sexes comme des êtres humains à part entière qui ne se limitent pas à des caractéristiques prédéterminées. En élargissant le débat et en attirant l'attention sur l'égalité des genres, assurez un équilibre du point de vue tant qualitatif que quantitatif en se posant des questions comme les suivantes. Y a-t-il un bon équilibre entre les sources féminines et masculines? Est-ce que les femmes et les hommes s'expriment sur les mêmes sujets ou est-ce que les médias réservent des thèmes spécifiques aux hommes et d'autres thèmes aux femmes? Est-ce que le langage encourage les stéréotypes à propos des hommes et des femmes? Comment les femmes sont-elles représentées? Comment les hommes sont-ils représentés? Est-ce que tous les hommes et les femmes de la société sont représentés et leurs voix sont-elles prises en compte? Comment les sources féminines et masculines sont projetées dans les médias? Quelles sont les voix et perspectives manquantes dans le programme? Utilisez un langage précis et dénué de jugement. Par exemple, un viol ou une tentative de viol ne peut pas être assimilé à une relation sexuelle normale. Et le trafic de femmes ne peut pas être confondu avec la prostitution. Les journalistes doivent réfléchir au degré de détail qu'ils souhaitent dévoiler. L'excès de détails risque de faire basculer le reportage dans le sensationnalisme. Évitez aussi que le manque de détails réduise la gravité de la situation vécue par la victime. Ne pas victimiser la victime 2 fois. Évitez de suggérer que la survivante est fautive ou qu'elle est responsable des attaques ou des actes de violence qu'elle a subis. Par exemple, en ajoutant un détail comme quoi la survivante était ivre ou qu'elle portait une jupe trop courte quand elle a été violée, veut dire implicitement qu'elle a provoqué le viol. Évitez d'étiqueter les survivantes. Les personnes confrontées à ce type de traumatisme ne souhaiteraient pas nécessairement être qualifiées de victimes, à moins qu'elles n'emploient elles-mêmes ce terme. L'utilisation d'étiquettes peut faire mal. Un terme plus approprié serait celui de survivante. La prise en compte des demandes de la survivante lors de l'entretien permet de réaliser un reportage responsable. Un drame social peut se jouer. Permettre à une survivante d'être interviewée par une femme dans un milieu sécurisé et privé participe à la prise en compte de ce drame. Aux médias d'éviter d'exposer les personnes interviewées à des abus supplémentaires. Certains agissements peuvent mettre en péril leur qualité de vie ou leur situation au sein d'une communauté. Essayez de traiter la survivante avec respect. Respectez sa vie privée, lui offrir une information complète et détaillée sur les sujets qui seront abordés au cours de l'entretien, ainsi que la manière dont l'entretien sera utilisé. Cela vous permettra d'avoir un consentement éclairé. Les survivantes ont le droit de refuser de répondre aux questions ou de divulguer plus d'informations qu'elles ne souhaitent pas. Se rendre disponible pour un contact ultérieur avec la personne interviewée et lui laisser ses coordonnées lui permettra de rester en contact avec le ou la journaliste si elle le souhaite ou éprouve le besoin. l'usage de statistiques et d'informations sur le milieu social permet de replacer la violence dans son contexte au sein d'une communauté ou d'un conflit. Le lecteur et le public doivent recevoir une information à plus grande échelle. L'opinion d'experts avisés facilitera la compréhension du public en fournissant des informations précises et utiles. Ceci contribuera à réfuter l'idée selon laquelle la violence à l'égard des femmes est une tragédie inexplicable qui ne peut être résolue. Racontez toute l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, les médias identifient des incidents spécifiques et se focalisent sur leurs aspects tragiques. La violence peut s'inscrire dans un problème social récurrent, dans un conflit armé ou faire de l'histoire d'une communauté. Il faut également préserver la confidentialité. Parmi les devoirs de vigilance des journalistes figure la responsabilité éthique de ne pas publier ou mentionner les noms ou identifier des endroits qui pourraient par la suite mettre en péril la sécurité et la sûreté des survivantes ou des témoins. L'enjeu est particulièrement important quand figure parmi les auteurs de violence la police, les forces armées dans un conflit, les agents d'un État ou d'un gouvernement ou les personnes connectées à des organisations importantes et puissantes. Essayez d'utiliser les sources locales. Les médias qui s'informent auprès des experts, des groupes de femmes ou organisations sur le terrain sous les meilleures techniques d'entretien et les règles s'appliquant à certains lieux feront du bon journalisme et éviteront les situations pouvant créer embarras ou hostilité. Il est important de s'informer sur les contextes culturels spécifiques et de les respecter. Fournissez des informations utiles. Un reportage mentionnant les coordonnées des personnes de contact ainsi que les organisations et services d'assistance fournit une aide essentielle aux survivantes, aux témoins et à leurs familles, ainsi qu'aux personnes qui pourraient être désaffectées. Se poser les grandes questions qui sont quoi, qui, où, quand et comment. Le tout donc est de respecter l'idéontologie du journalisme, la vérité, le respect des droits humains et respect de la personne humaine, de la vie privée, des bonnes mœurs, l'impartialité, l'indépendance et la responsabilité sociale. Un reportage sensible au genre tient compte de l'équilibre du genre dans le choix des sources, un vocabulaire neutre au niveau du genre, être juste dans son approche et conscient des différents impacts possibles, n'accorde pas deux traitements aux sources et ne moralise pas. Il ne porte pas de préjudice ouvertement et ne ridiculise pas. Ne rejetez pas le blâme sur quelqu'un d'autre et brisez les stéréotypes. Essayez de donner des statistiques réparties selon le genre et d'utiliser un langage simple, équilibré au niveau du genre. Un journaliste couvrant les violences de ce genre doit également rester alerte pour ne pas tomber dans le piège des perceptions liées aux agressions sexuelles. Concrètement donc, pour la réalisation de reportages sur les survivants, gardons à cœur les principes suivants. La dignité et les droits de toute survivante doivent être respectés en toutes circonstances. Lors des enquêtes et des interviews sur les survivants, accordons une attention particulière aux droits de toute survivante, à la confidentialité et au respect de sa vie privée, à son droit de se faire entendre, à participer aux décisions qui l'affectent et à être protégée contre toute forme de violence et représailles, y compris le risque même de violence et représailles. L'intérêt supérieur de toute survivante est plus important que toute autre considération. Lorsqu'on essaie de déterminer l'intérêt supérieur de la survivante, le droit de celle-ci à se faire entendre doit être pris en compte en fonction de son âge et de sa maturité. Les personnes les plus proches de la survivante sont les mieux placées pour évaluer sa situation et doivent être consultées à propos des conséquences politiques, sociales et culturelles de ce reportage. Ne publions pas un article ou une photo qui risque de mettre la survivante, ses frères et sœurs ou ses camarades en danger, même lorsque les identités sont changées, obscurcies ou non utilisées. En menant des interviews avec des survivantes ou les victimes, évitons d'être nuisibles. Évitons les questions, les attitudes ou commentaires qui reflètent des jugements de valeur, qui sont insensibles aux valeurs culturelles, qui mettent la survivante en danger ou l'exposent à l'humiliation, ou qui raniment la douleur et le chagrin provoqués par des événements traumatisants. Évitons de faire la discrimination lors des voix des survivantes pour les interviews fondées sur le sexe, la race, l'âge, la religion, le statut social, l'éducation ou les capacités physiques. Évitons de faire des mises en scène, c'est-à-dire de ne pas demander aux survivantes de raconter une histoire ou de faire quelque chose si cela ne fait pas partie de leur propre existence vécue. Assurons-nous que la survivante ou la personne qui s'occupe d'elle savent s'ils parlent à un journaliste. Avant de commencer les enregistrements, on doit saluer et se présenter. Ensuite, expliquer le but de l'interview et la façon dont elle sera utilisée. C'est bon d'obtenir la permission de la survivante et de la personne qui l'encadre et, dans la mesure du possible, les photos du documentaire. Le cas échéant, lorsque cela est approprié, cette permission devra être donnée par écrit. La permission doit être obtenue en veillant à ne pas faire pression sur la survivante ou la personne qui s'occupe de lui et s'assurant qu'ils comprennent qu'ils font partie d'une histoire et risquent d'être diffusés sur la place ou dans le monde entier. Il faut veiller aussi à obtenir la permission de la survivante dans sa langue à lui et à ce que la décision soit prise en accord avec un membre de l'entourage auquel la survivante fait confiance. C'est ce que l'on appelle le consentement éclairé. Choisir soigneusement l'endroit où la survivante sera interviewée et la façon dont l'interview est menée. Limiter le nombre d'interviews et de photos. Lors du reportage sur les survivantes, n'acceptons pas la stigmatisation d'une survivante. Évitons d'étiqueter les survivantes et de les décrire de manière à les exposer à des représailles, notamment des violences physiques et psychologiques, ou à des discriminations ou la mise au ban de leur communauté. Donnons toujours le contexte exact d'un article sur la survivante ou d'une image de lui ou elle-même. Changeons toujours le nom et masquons l'identité visuelle de toute survivante qui est identifiée comme 1. Victime d'un abus ou d'une exploitation sexuelle, 2. Auteur d'abus sexuels ou d'actes de violence physique, 3. Séropositif, vivant avec le VIH-SIDA ou décédé du SIDA, sauf si la survivante, un parent ou le tuteur donne une autorisation dûment informée, et 4. Accusé ou coupable d'un crime, et 5. Un enfant soldat, actuel ou passé, qui tient une arme ou des armes. Dans certaines circonstances, si une survivante risque d'être victime des représailles, il convient de changer le nom et masquer le visage de toute survivante présentée comme un ex-enfant soldat qui ne tient pas une arme mais pourrait être en danger, un demandeur d'asile, un réfugié déplacé à l'intérieur de son propre pays. Dans certains cas, utiliser l'identité de la survivante, son nom et ou sa photo reconnaissable peut mieux servir ses intérêts. Toutefois, lorsqu'on se sert de l'identité d'une survivante, il faut continuer à la protéger et tenir contre toute stigmatisation et toutes les formes de représailles. N'oublions donc pas la sûreté ou la sécurité, la confidentialité, le respect et la non-discrimination. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous remercie. Au revoir.